c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Bergerac 95 avec Alain Jeanne. Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Pineuil, votre spécialiste culture, centre commercial Grand Pineuil.
Chut, on écoute la télé avec l'Angélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arômes, sans colorants, sans conservateurs. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Chut, on écoute la télé avec votre magasin Optical Center de Bergerac-Cresse. Optical Center, c'est toute une équipe de professionnels à votre écoute. Des offres exceptionnelles, les plus grandes marques, le choix et la qualité. Optical Center, votre spécialiste en optique et en audition, vous accueille zone commerciale, porte de la Dordogne, à Cresse.
Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Bergerac 95 où vous nous écoutez eh bien chaque lundi à 19h par exemple sur le 95.0 du côté de Bergerac, Cresse ou encore Sainte-Foy-la-Grande. Pendant une heure, eh bien on va passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités et ça tombe bien, tout de suite voici le sommaire de l'émission.
On est vraiment bien sans
Chute, on écoute la télé. Chute, on écoute la télé, le talk show radio.
Et au menu de votre nouvel hebdo de Chute, on écoute la télé aujourd'hui, eh bien nous allons continuer à parler de la série Je te promets, tournée dans notre région en Nouvelle-Aquitaine, et on va mettre le personnage de Matisse à l'honneur cette semaine avec Narcisse Mam qui va être avec nous d'ici quelques instants. Deux grandes spéciales dans notre émission aujourd'hui pour fêter l'arrivée de la nouvelle série de France 2, La Faute à Rousseau. Nous aurons le grand plaisir d'avoir la coproductrice avec nous en ligne qui sera là, et puis également Charlie Dupont, le héros Benjamin Rousseau, qui sera également notre invité exceptionnel. Rendez-vous donc à ne pas manquer. Nous aurons également une spéciale Tropique Criminel. La série tournée en Martinique fait son retour vendredi sur France 2. À cette occasion, Thierry Sorel, le coproducteur, ainsi que Sonia Roland seront nos invités exceptionnels également. Et puis en fin d'émission, on va parler également d'émission Déconfinée qui avait commencé en mars dernier sur la chaîne parlementaire. Maïtena Birabin sera notre invitée en fin d'émission puisqu'elle revient pour une deuxième saison de Déconfiné. Ça sera vendredi soir à 20h30 sur LCP. Vous l'avez compris, nous avons un beau petit programme chargé qui nous attend. Alors on va tout de suite commencer avec les audiences de la semaine dernière.
Les tops et flops d'audience.
Et on démarre avec lundi dernier pour commencer. Donc Je te promets sur TF1 qui fait 4 millions 30 000 téléspectateurs pour 18,5% de part de marché. M6 est deuxième avec L'amour est dans le pré, 15,1% du public pour 3 millions 500 000 téléspectateurs. Bon début pour France 2 également pour Les aventures du jeune Voltaire avec 3 237 000 téléspectateurs et 14,1% de part de marché. Première chaîne de la TNTC, W9 avec Sister Act avec 1 311 000. Et puis mardi, il y avait Alexandra L sur France 3, beau début également pour la série avec 4 041 000 téléspectateurs. Et là aussi une belle part de marché de 17%, soit T2 sur TF1 avec 3 599 000 téléspectateurs. Une planète parfaite fait un beau score également avec plus de 3 millions de téléspectateurs sur France 2 et 12,9% de part de marché. Et puis la fiction Escape sur W9 fait 5,5% de part de marché et 1 338 000 téléspectateurs, c'est plutôt bien pour une chaîne de la TNT. Allez, on continue tout de suite avec Narcisse Mam qui débarque tout de suite dans Chute, on écoute la télé. Merci de nous suivre et d'être avec nous.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coup de cœur télé consacré à Je te promets, la saison 1 continue ce soir sur TF1. Vous allez pouvoir découvrir le 5e et le 6e épisode qui va être riche en rebondissements pour le personnage de Matisse. C'est Narcisse Mam qui est notre invité. On continue à en parler de cette belle série. Narcisse, bonjour et merci d'être avec nous.
Merci, écoutez, bonjour à tous et ravi d'être avec vous également.
Alors, je suis très heureux de vous avoir, Narcisse, parce que voilà, c'est une belle série, une adaptation réussie d'une série dont moi je suis particulièrement fan, c'est This Is Us, évidemment. Et là, eh bien, on est complètement rentré, ça y est, hein, maintenant, depuis 15 jours, on va découvrir le 5e et 6e épisode ce soir, mais on est complètement rentré dans le quotidien de ces triplés que vous incarnez avec Guillaume Labbé et Marie-Lou Berry. Mais déjà, première chose que j'ai envie de vous demander, Narcisse, comment vous avez réagi quand vous avez lu un peu le personnage, la bible du personnage de Matisse?
J'ai eu beaucoup de questionnements, des craintes, notamment parce que voilà, on connaît tous l'énorme succès qu'a eu This Is Us aux États-Unis. C'est une institution, hein, c'est la série numéro 1 là-bas. Donc je trouvais que c'était quand même assez osé de s'attaquer à un remake français. Du coup, j'en ai discuté avec les producteurs, avec les réalisateurs. Et puis à la lecture du scénario du premier épisode, j'ai été conquis dès les premières lignes, parce que l'adaptation est vraiment ancrée dans la culture française des années 80. Franchement, j'ai foncé dedans. Ce que j'ai pas fait par contre, c'est j'ai évité de regarder la version américaine pour éviter d'être influencé, même inconsciemment, par le personnage de Randall. Et je voulais partir sur une totale créativité et laisser mon instinct s'exprimer à certains endroits. Voilà, je l'ai fait comme ça. Et puis maintenant, je vais me plonger tout doucement dans la version américaine pour voir si pour moi, j'ai réussi à faire une différence sur le personnage, quoi.
Alors, je suis un peu frappé parce que vous me dites justement ce que je posais la question la semaine dernière à Guillaume, et je lui demandais s'il avait regardé la version originale pour s'inspirer un peu peut-être de Kevin, et il m'a dit non, je n'ai pas regardé une seule image. Et quand je vois comment vous êtes tellement proche du personnage d'origine, c'est assez incroyable. Si vous me dites que vous aussi vous avez pas regardé un épisode avec Randall pour le coup avant de l'interpréter, Mathis, c'est incroyable.
Exactement, non mais vraiment pas. C'était un peu le débat qu'on avait tous aux répétitions.
Bien oui, j'imagine.
Avant de commencer le tournage, c'est-à-dire qui a regardé, qui n'a pas regardé, qui va regarder, qui va résister. Et ça c'est amusant. Et effectivement, Guillaume et moi et Camille, on a fait partie de ceux qui ont décidé de ne pas regarder, de vraiment partir sur quelque chose de totalement nouveau. Parce que voilà, il y avait ce risque de dire waouh, ce qu'ils ont fait c'est énorme. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais pouvoir faire la même scène de la même manière? Et pour éviter tous ces écueils, ben moi, en ce qui me concerne, j'ai pas regardé.
En tout cas, on s'attache très vite au personnage de Mathis, qui a retrouvé son père biologique dans les premiers épisodes, là maintenant, qu'on a vu. On sait qu'il est malade, évidemment. On découvrira pas mal de choses, évidemment, dans les épisodes futurs. Mais surtout, et là, on va pas spoiler, évidemment, mais il va y avoir une grosse, grosse révélation qui va rebattre les cartes et qui va mettre Mathis dans tous ses états. Donc vraiment, les deux épisodes de ce soir, faut pas les manquer. C'est un tournant pour Mathis.
Exactement, exactement. Un grand tournant parce que, voilà... Comme vous avez pu le découvrir dans les épisodes précédents, Mathis, c'est un père de famille qui cherche à être aimé de tout le monde, mais malheureusement, il lui manque quelques pièces à son puzzle existentiel. Il a grandi avec un mal-être, même s'il a bénéficié d'un amour inconditionnel de la part de sa famille adoptive. Mais voilà, il avait besoin de retrouver certaines choses et de comprendre cet abandon qu'il y a eu à sa naissance. Et voilà, dans l'épisode 5 et 6, il va y avoir pas mal de rebondissements qui vont permettre de franchir une étape pour lui. Et bon, ce sera décisif. Je peux pas vous en dire plus, mais voilà. Soyez attentifs à la diffusion de ces épisodes, parce que je pense que vous aussi, vous serez agréablement surpris de ce qui va se passer. Ouais.
Exactement. Il y a que ceux qui connaissent la version originale de This Is Us qui comprennent ce qu'on dit, mais c'est pas grave, c'est ça qui est bien.
Exactement, on sait de quoi on parle, mais on peut pas tout dire. Faut les laisser quand même.
Exactement. Bon, Narcisse, on est peut-être parti pour 6 saisons, mine de rien.
Oui, oui, oui. D'emblée, déjà, la prod nous a demandé de bloquer 3 saisons, voilà, d'entrée de jeu, parce qu'ils étaient convaincus de ce qui allait se passer derrière, c'est-à-dire de l'accueil du public. Une fois qu'on a fait les premières projections chez TF1, bah écoutez, ça s'est confirmé dans la mesure où ils nous ont bloqué pour les dates de la saison 2, voilà. Après, il y a toujours cette attente au niveau des audiences pour savoir si le compte est bon, j'ai envie de dire. Et là, visiblement, c'est très bien parti pour 2-3 saisons futures. Et là, ça reste à venir, exactement.
Vous avez échangé de temps en temps avec Hugo et Camille pour le coup qui tournait avec une autre équipe, quasiment à l'autre bout de la France, chez nous, en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que vous avez pu échanger un peu sur le travail qui avait été fait, chacun de votre côté?
Oui, oui, on a. Alors au départ, on a fait des lectures tous ensemble, voilà, pour créer un peu cette ambiance familiale. C'était important, même si voilà, le tournage de cette série s'est scindé en deux équipes, donc une à la Rochelle, Rochefort, et puis l'autre sur Paris. Et je fais partie des seuls acteurs, si ce n'est le seul, à avoir eu la chance de tourner un petit peu à Rochefort aussi avec Hugo, mais pas beaucoup, hein. C'est un ou deux jours, et de me plonger dans le passé. Voilà, je vous en dirai pas plus par rapport aux circonstances. Et par rapport à ça, ce qui a été intéressant, c'est que j'ai vu les conditions de tournage, l'ambiance qu'il y avait, l'atmosphère dans laquelle ils étaient plongés, qui était assez différente de nous sur Paris, mais c'était complémentaire, parce que les deux réalisateurs, donc Arnaud Sélignac et Renaud Bertrand, ont switché, en fait, chacun à 6 épisodes,
ouais.
Et ont su ramener l'univers de l'un et l'autre, voilà, où est-ce qu'il fallait. Donc non, on y était, et puis Camilou et Hugo ont fait un travail extraordinaire. Nous, on l'a découvert durant la projection privée des premiers épisodes, et puis on s'est dit « waouh ». Ok, d'accord. C'était ça qui se passait pendant qu'on était sur Paris. Donc, ouais, la surprise a été de taille. Et puis, on a vraiment hâte d'entendre vos retours par rapport à la saison 1.
Bon, Narcisse, vous qui avez été aussi à l'affiche de la série Engrenage et plein d'autres fictions aussi, est-ce qu'il y a d'autres projets qui arrivent pour 2021 pour vous?
Ah oui, pas mal de projets, notamment pour des plateformes. Pour l'instant, je peux pas en dire plus parce que c'est assez confidentiel, c'est assez, bon, les plateformes, elles sont assez compliquées à ce niveau-là, mais oui, de très beaux projets, des premiers rôles aussi, voilà. L'année 2021, malgré ce qui se passe, va être une belle année, je l'espère pour tous. Et en tout cas, elle débute bien pour moi, oui.
Bon, tant mieux. Puis cet été, peut-être le tournage de la saison 2 de Je te promets. C'est ce qu'on espère, en tout cas, pour vous tous.
Exactement, c'est ce qui est prévu. Et de toute façon, une fois que les dates sont vraiment calées, on vous tiendra informé. Et puis on espère vous voir sur le plateau, parce que vous avez pas fait ça.
On espère qu'on viendra ce coup-là. On espère qu'on pourra y être.
Ouais. Et on croise les doigts,
oui, on croise les doigts nous aussi. Et puis Narcisse, on vous souhaite tout plein de belles choses pour la suite, évidemment, on reste en contact. Et puis je te promets, on va suivre les épisodes 5 et 6. Je veux vous dire que Mathis va être au cœur de ces deux épisodes et que ça va pas être de tout repos, mais on va vous laisser regarder ça ce soir. Et pour vous faire patienter, on va se quitter avec un petit extrait, une bande annonce, et je vous dis à très vite. Merci Narcisse.
Je vous en prie, au revoir, à très vite.
Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche.
Fastoche, c'est qui le plus fort, hein?
Les dentelles font péter.
T'es peut-être un si génie dans ton école, mais là je te laisse pas 3 minutes. Et boum! Prends ça dans les dents, bamboula!
Oh! Non mais Mickaël, tu te crois où, là? Je t'interdis d'appeler ton frère comme ça, c'est compris? Et tu baisses le son!
D'accord.
Mais arrête de tricher, j'allais gagner. Maman.
Oh, c'est insupportable. On s'entend plus jouer.
C'est toi le tricheur. Tu peux jamais faire comme tout le monde. Faut toujours que t'inventes des trucs compliqués avec ton cerveau bizarre.
Et ça va pas la tête là.
Et dans un instant, notre spécial La Faute à Rousseau, avec Charlie Dupont notamment, mais aussi notre spécial Tropique Criminel avec Sonia Roland, Maïté Nabirabin. En fin d'émission, on va pas s'ennuyer. Alors à tout de suite dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite.
Quand le soleil se couchera pour ne plus jamais se lever, et quand notre ciel deviendra noir pour toute l'éternité, quand notre terre s'endormira, que l'océan se figera, quand s'éteindront les volcans, quand viendra la fin des temps, moi j'écrirai ton nom en lettres de passion pour que l'on se souvienne que toi que j'aime. Moi j'écrirai ton nom pour que même les démons sachent pour l'éternité combien on s'est aimé, pour laisser pour toujours la trace de notre amour. Quand les oiseaux ne chanteront plus, que seules les pierres sur le sol nu se rappelleront qu'autrefois le ciel vibrait de leurs émois. Quand il n'y aura plus que le vent pour se rappeler nos serments, que seule la plaine desséchée se souviendra de nos baisers, moi j'écrirai ton nom en lettres de passion que l'on se souvienne qu'il n'y a que toi que j'aime. Moi j'écrirai ton nom pour que même les démons sachent pour l'éternité combien on s'est aimé, pour laisser pour toujours la trace de notre amour. Moi j'écrirai ton nom en lettres de passion pour que l'on se souvienne qu'il n'y a que toi que j'aime. Moi j'écrirai ton nom pour que même les démons sachent pour l'éternité combien on s'est aimé, pour laisser jour la trace de notre amour. Oui, j'écrirai ton nom pour que même les démons sachent pour l'éternité combien on s'est aimé. Oui, j'écrirai ton nom en lettres de passion pour que l'on se souvienne qu'il n'y a que toi que j'aime.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on va démarrer dans Chut, on écoute la télé, notre spécial La Faute à Rousseau. Dans un instant, Charlie Dupont, le héros, va nous rejoindre dans Chut, on écoute la télé. Mais pour l'instant, c'est la coproductrice qui est avec nous, Lou Gauthier, coproductrice chez DMD qui produit aussi Joséphine Ange Gardien. Et là, c'est La Faute à Rousseau qui débarque mercredi déjà sur France 2 pour les deux premiers épisodes. Bonjour Lou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Merci Lou d'avoir accepté d'être des nôtres aujourd'hui à deux jours du lancement de cette toute nouvelle série qui, je sais, est un gros enjeu, que ça soit pour France Télévisions ou pour vous, parce que voilà, une nouvelle série, c'est toujours évidemment beaucoup d'enjeux et puis surtout espérons qu'elle va plaire au public, mais j'en doute pas.
Non, bah en effet, c'est un gros enjeu pour France Télé qui voulait renouer avec l'éducation et qui voulait lancer donc des séries. Ils lancent plusieurs séries sur le monde du lycée. Donc La Faute à Rousseau sera la première à être diffusée donc le 17 février. Nous, ça fait longtemps qu'on souhaitait parler d'éducation, parler de la jeunesse, dépendre de la phase charnière qui est l'adolescence. Et en fait, on est parti donc sur cette série qui est une adaptation d'un format plutôt une libre inspiration. D'un format catalan qui s'appelait Merli. Donc, La Faute à Rousseau, c'est une série qui met en scène le prof qu'on aurait tous rêvé d'avoir, atypique, anti-conventionnel, voilà.
Comment est venue l'idée, justement, du prof de philo complètement à contre-courant, un peu de tout ce que peuvent être aujourd'hui les profs de l'éducation nationale? Qui a eu cette idée-là?
Comme je vous disais, c'est une libre adaptation d'un format espagnol et catalan.
Donc c'était un prof de philo dans l'adaptation, enfin dans l'original.
C'était déjà un prof de philo.
D'accord.
On a repris les personnages qu'on a adaptés évidemment, et ensuite on a recréé toute la trame narrative autour. La série espagnole suit les élèves sur tout le lycée, donc on les prend en seconde et on termine la saison en terminale. Nous on a fait le choix parce que évidemment en France la philosophie est enseignée seulement en terminale, de suivre les élèves sur une année. Donc on a fait le choix d'une série bouclée qui mettait en lumière un personnage sur chaque épisode et une notion de philosophie.
Et le choix de Charlie s'est imposé tout de suite pour le coup?
Alors Charlie, c'était une envie depuis le début. Sébastien Bavard avait pensé à lui, donc qui est producteur de la série qui produit avec moi donc La Faute à Rousseau. Et pour nous, c'était la bonne personne pour incarner ce rôle.
Et c'est vrai que ça le fait bien.
Voilà, il a ce petit côté malicieux, ouais. La comédie, et en même temps, il arrive à nous faire suivre des cours de philo avec des scènes qui sont quand même assez longues, vu qu'on a des scènes de 4 minutes de philo. Et c'était un petit pari d'arriver à pouvoir assumer en fiction des vraies scènes de philosophie.
Oui.
Avec des vrais cours de philosophie.
Et tenir le téléspectateur, effectivement, sans le faire décrocher.
C'est ça.
Exactement. Alors, le choix des jeunes, alors, on imagine, là, d'après ce que vous m'avez dit, Lou, pour le coup, que le casting des jeunes changera s'il y a une saison 2, chaque année, en quelque sorte, du coup.
Bah, en fait, nous, on a une vraie volonté de traiter de sujets forts à chaque épisode. Donc, chaque épisode, donc, comme je vous le disais, il y a une notion de philosophie appliquée à un personnage et à une problématique sociétale. Voilà, on a Paul et la liberté sur le premier épisode, Anaïs et l'amour. Et c'est vrai que cette puissance, si on veut la garder, faut aussi pouvoir renouveler les personnages. Après, voilà, on aimerait bien, on va en faire redoubler quelques-uns de toute manière.
c'est la solution.
Pour pouvoir aussi garder certains personnages.
Alors, il y a un casting assez fou que tous les fans de séries, bien sûr, vont reconnaître. Hein. Je pense à Esther Valding, évidemment, qu'on a vu dans Les Bracelets Rouges. Je pense aussi, oui. Bien sûr, à Brian Trésor, à Mayra Tilian qu'on voit dans Plus belle la vie. Mais voilà, on a Louis Duneton que je vous défie de reconnaître dans le rôle du fils de Benjamin Rousseau aussi, qui est formidable aussi. C'est vraiment un beau casting de jeunes réussis, là.
Alors, ils sont géniaux. Bah, comme je vous ai dit, on va certainement devoir renouveler une partie de la classe. J'aurais pu les garder. Vraiment, ça aurait été avec grand plaisir. Ils sont tous d'une même team. Vous avez cité Louis Duneton, Brian Trésor et Serval Dean. Il y a Grégoire Taturel aussi, Émilie Faure, Chloé Zerbib, Victor Lefebvre. Voilà, donc on a des comédiens qui ont déjà, que le public connaît déjà, et des jeunes comédiens. Pour certains, c'est leur premier tournage. Et voilà, c'était extrêmement bien passé. Ceux qui avaient plus d'expérience ont embarqué les autres dans leur énergie et ça s'est extrêmement bien passé.
Ah, évidemment, le tournage a été un peu perturbé hein, par le coronavirus, hein, parce que quand on tourne avec autant de monde, autant de figurants, parce que voilà, il y a du monde à l'écran, mine de rien, dans cette série. C'est aussi la particularité. J'imagine les difficultés que vous avez pu rencontrer. Hein.
Ça a été très compliqué. On a dû réfléchir au texte, savoir ce qui était primordial hein, pour l'histoire ou pas, pour éviter tout contact physique, parce que tout contact physique, évidemment, puisqu'il y a un test PCR. Donc, on a essayé de limiter au maximum, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens à l'image, c'est très contraignant, mais tout le monde a fait extrêmement attention et a été vigilant sur le plateau. Donc, on n'a pas eu trop de problèmes, mais voilà.
Alors, si vous avez envie de voir la suite aussi, ou si vous avez envie de voir en avant-première la série, elle est disponible sur Salto également. Ça aussi, c'est un beau cadeau pour nous, téléspectateurs. Et puis, on va recevoir Charlie Dupont dans un tout petit instant. Lou, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et puis, on va écouter la bande-annonce.
C'est un bon visionnage.
Eh ben oui, on va écouter la bande-annonce. Et puis, oui. Charlie Dupont nous rejoint tout de suite après. Merci beaucoup, Lou. À bientôt.
À bientôt.
Merci, maman. Je pensais vraiment que j'avais passé l'âge de t'emmener à l'école, hein.
Comment tu fais pour être à la fois aussi instable et aussi prévisible?
Je me débrouille. On est là pour leur faire réussir le bac.
Tu n'es pas plutôt là pour leur faire réussir leur vie?
Mais lui me plaît, lui.
Elle est où ta classe? Pourquoi t'es là?
À votre avis, je sais pas, perdre du poids, qu'on veuille de moi un jour.
C'est pratique, hein, de faire ce qu'on attend de nous. Sartre, il dit, est-ce que je suis ?
Et voilà, donc la faute à Rousseau, on va découvrir cette toute nouvelle série sur France 2, ça sera donc mercredi soir, et donc je vous l'avais promis, après Lou Gauthier, c'est donc eh bien notre ami Charlie Dupont qui nous rejoint. Bonjour Charlie.
Bonjour Alain, comment ça va ?
Eh ben ça va très bien, je suis très heureux de t'entendre, ça faisait longtemps qu'on s'était pas eu, et là, tellement heureux de te retrouver dans un beau projet et une jolie série qu'on va découvrir mercredi sur France 2, et toi dans le rôle de Benjamin Rousseau, un tout nouveau prof de philo qui débarque sur France 2.
C'est vrai, j'ai ce plaisir et cette joie.
Alors comment ça s'est passé? Raconte-nous, comment t'es arrivé dans cette aventure?
Ben comme toujours, à force de sueur, de travail et de chance, casting je crois a vu passer la France entière, et donc forcément ils ont choisi un acteur belge, c'est tout à fait naturel, et c'est un rôle que je voulais, comme rarement je voulais un rôle. Il faut savoir que le Robin Williams du Cercle des Poètes Disparus, moi c'est tout simplement une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce métier. C'est un film qui m'a vraiment bouleversé à l'époque. Je te parle de ça avant la guerre en 1942. Non, on est en 89, un truc comme ça. Je crois.
C'est ça,
voilà,
à peu près.
C'est important pour voilà. Donc voilà, c'est quand même une série qui vient chatouiller cette référence-là du Cercle des Poètes Disparus. Donc j'avais très envie, mais bon, je ne suis peut-être pas le seul à avoir très envie, mais donc ils m'ont choisi moi et j'en suis ravi.
Alors on va te retrouver avec toute une pléiade de comédiens que les habitués du petit écran connaissent bien. Grégoire Paturel, Mayra Tilian, Brian Trésor dans le premier épisode aussi, Samira Lachab, que les fans de Demain nous appartient, je crois, n'oublieront jamais. Vraiment de beaux comédiens à tes côtés.
Annie Duperret.
Évidemment, inoubliable. Eh oui.
C'est merveille. Louis Duneton qui joue mon fils, qui est fantastique.
Et oui, et que là, les fans de Plus belle la vie, je vous défie de le reconnaître. Je ne vous dis que ça.
Il y a longtemps qu'il a quitté l'aventure.
Ah
ben
oui,
vie, hein,
ça c'est sûr. Ouais. Il est méconnaissable. Il est assez incroyable, Louis, parce que même moi sur le coup, je l'ai pas reconnu et il est assez méconnaissable. Vous allez pouvoir le découvrir justement. Puis ça fait plaisir de le revoir aussi. Il joue le rôle de ton fils d'ailleurs.
Formidable acteur. Ouais.
Charlie, quand t'as lu le scénario la première fois, tu t'es dit quoi sur ce prof de philo un peu particulier, un peu borderline, un peu libre, même très libre?
Je me suis dit qu'il y avait beaucoup à jouer parce que c'est avant d'être un prof, c'est un être humain, c'est un fils et c'est un père, c'est un plutôt mauvais père et c'est un pas terrible fils d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est complètement à côté de la plaque avec la gestion de sa propre vie et de ses émotions, mais qui en même temps est un vrai philosophe quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, il se rêve romancier, maudit, c'est un ancien punk, il y a un côté rebelle en lui comme ça, il n'est pas du tout fait pour être prof, mais il se trouve qu'il va être obligé de l'être, et il va être plutôt brillant avec les autres, parce que le bagage de philo qu'il a va servir à aider ses élèves, et je crois qu'il y arrive vraiment bien. Ça n'empêche qu'il rame complètement dans sa vie à lui. Et donc ça fait un grand écart entre la fragilité et ses forces, qui est assez jubilant à jouer, forcément. Ça m'a, à la lecture, c'est ça qui m'a attrapé.
Alors la série est une adaptation libre d'une série espagnole. Est-ce que tu as regardé la série originale pour le coup?
Absolument pas. Et ce qui est assez drôle, c'est que les auteurs non plus, donc c'est une adaptation vraiment très très libre, à part le pitch qui est... un ancien punk décalé va être obligé de retrouver ses racines, sa mère, son fils, et de se saisir du métier de prof. À part ça, il n'y a rien qui correspond, je crois, à la série Merli, dont c'est donc très très librement adapté. Alors, moi, je me sens plus. Je revendique en fait plus la liberté profonde du prof de littérature du cercle des poètes disparus qu'une référence à Merli, puisque je l'ai pas vu.
Ça te fait quoi d'avoir Annie Dupéré comme maman?
Ça me fait plaisir, voilà ce que ça me fait.
Tu m'étonnes.
Voilà une jeune actrice extraordinaire qui est brillante, simple, ludique, enfin toutes des qualités que le cinéma français a parfois oubliées, et qu'elle a elle toute seule trimballe avec en plus une bibliothèque ouverte sur l'histoire du cinéma, c'est-à-dire qu'elle a des anecdotes qui nous viennent quand même, je crois qu'elle joue, elle, depuis qu'elle a 15 ans, un truc comme ça, et elle en a maintenant 26, donc elle a vraiment beaucoup de choses à raconter, et c'est passionnant de l'écouter. Elle est vraiment, elle a des leçons de jeunesse d'esprit à donner à pas mal d'acteurs avec qui j'ai travaillé.
Alors c'est parti pour 4 semaines de diffusion, on va découvrir 2 épisodes chaque mercredi soir. Est-ce que t'es partant toi déjà pour une suite?
Moi je suis très heureux de ce qu'on a fait, si je peux retrouver cette bande-là et partir pour quelques épisodes supplémentaires, c'est avec grand soleil. Maintenant en effet, on sait que les choses sont étranges et que c'est pas moi qui décide, mais si ça tient qu'à moi, c'est oui.
T'as des anecdotes, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des moments de fou rire des fois quand même?
Oui, non, il y a évidemment des moments de fou rire, mais il y a des moments de bravoure aussi, avec un truc très particulier, c'est qu'on a tourné du 20 juillet au 20 novembre, en gros, c'est-à-dire entre couvre-feu et confinement, dans un monde très étrange, où on se pinçait d'arriver à tourner tellement c'était pas gagné d'avance, comme si c'était pas vrai quelque part. Ça a donné, je crois, un petit truc supplémentaire. Et puis il y a une anecdote, sans spoiler ce qui se passe dans la série, mais il y a un moment où il y a une scène on a été beaucoup rattrapé par la réalité, quoi. C'est-à-dire que il y a eu, c'est pas des anecdotes drôles que je vais sortir, mais qu'il y a quand même, on a perdu, j'allais dire, Samuel Paty en cours de route, qui est quand même un moment fort pour tous ceux qui ont été vraiment profs dans la vraie vie dans ce pays, et pour moi qui étais un faux prof aussi quand même, parce que je joue un prof de philo, mais je crois que c'est quand même en termes de valeurs défendues, quelqu'un qui portait haut des valeurs formidables, et dont on parle pendant toute cette série. Même si notre classe était fausse, on l'a pris comme la perte d'un collègue, quoi, et comme d'un proche. Après, il y a aussi des scènes, donc je disais sans spoiler, qu'on a tourné avec des faux flics, forcément, qui en l'occurrence frappent. Un des élèves, je vais rien dire, mais je l'ai dit quand même. Et donc tourner pendant le confinement, scène d'extérieur avec 50 figurants, et pendant qu'on est en train de remettre en question le fait qu'on peut ou qu'on ne peut pas filmer un flic, jouer des scènes de où il est question de ça, c'est quand même très très étrange et particulièrement audacieux.
Alors on va découvrir les 2 premiers épisodes mercredi, avec un épisode avec Brian Trésor qui sera Paul.
C'est que en fait chaque épisode aborde un thème propre à un élève.
Exactement. Il y aura un élève à l'honneur, quoi.
Oui, un thème de philo quelque part. En fait, comme ce prof que je suis ne prépare rien, il regarde, il scrute d'abord qui a un problème et en fonction de ce problème, il sort le thème de philo qu'il va utiliser pour donner des réponses à cet élève en difficulté. Et donc on a Paul et la liberté, Anaïs et l'amour, voilà, sur les 8 épisodes comme ça, on prend chaque fois un élève et un thème de philo qui va servir cet élève. Et en effet, on commence par Paul et la liberté. Paul qui est joué hallucinamment bien par Brian Trésor, qui est le rebelle de la classe.
Eh bien, on va découvrir ça. La faute à Rousseau, c'est donc mercredi soir à 21h05, juste après Un si grand soleil sur France 2. Charlie, merci d'avoir été avec nous. On referme ensemble cette spéciale La faute à Rousseau avec un nouveau petit extrait. Et je te dis à très bientôt.
À très bientôt, amusez-vous bien.
Allez, à bientôt Charlie, merci.
Salut Alain, au revoir. Je pense là.
T'as jamais été là.
T'inquiète pas, ça va s'arranger avec Théo. Ça va se construire petit à petit.
Comment allez-vous?
Ou comme nous.
Je crois que la philosophie, en fait, c'est à 18 ans qu'on en a le plus besoin.
La philo, c'est déconstruire ou c'est tout retirer.
Jusqu'à ce qu'on se retrouve en caleçon.
Tout à fait.
Allez, la série est de retour. On avait découvert la première saison de Tropic Criminel l'année dernière et on va découvrir la saison 2 vendredi prochain sur France 2. Thierry Sorel, son coproducteur, est avec nous aujourd'hui en ligne. Bonjour Thierry.
Oui, bonjour à vous.
Merci d'être avec nous. On va enfin suivre la suite des aventures de notre duo d'enquêtrices de choc et de charme avec Sonia Roland et Béatrice Delaboulet, alias Mélissa Sainte-Rose et Gaëlle Crivelli, qu'on adore aussi. Et d'ailleurs, Béatrice sera notre invitée lundi prochain, on continuera à en parler. Mais Thierry, d'abord, déjà, comment est née l'idée de faire cette série sous les tropiques?
Bah écoutez, c'était une idée qui germait dans ma petite tête depuis quelques temps. Je voulais proposer une série à la fois policière, donc vous savez, avec la convention de l'enquête hein, dans chaque épisode, mais une série qui puisse être un peu originale à plusieurs titres. Donc le premier point, ça a été de chercher un dépaysement et j'avais très très envie d'aller proposer la Martinique, c'est-à-dire cette France qui est une France un peu lointaine, qu'on voit pas beaucoup.
C'est vrai.
Qui est formidable.
Pas assez, à mon goût.
Qui est formidable. Bah oui, qu'on voit pas assez et qui est une partie de la France et lointaine, qui culturellement et d'un point de vue des paysages et d'un point de vue de la société locale est d'une richesse formidable. Donc l'idée c'était de proposer donc ces enquêtes dans un cadre dépaysant, tout en n'étant pas dans une optique de la pure carte postale où on ne regarde que ce qui est parfaitement magnifique, mais aussi on se permet d'aller regarder un peu du côté de la société en elle-même, qui est traversée des mêmes maux que toutes nos sociétés, hein, donc faut pas se leurrer. Et puis l'autre point, c'était de vouloir mettre en place un duo féminin qui manquait à l'époque. Il n'y en avait pas. Et sont arrivées ces deux comédiennes pour jouer ces rôles. Elles sont fantastiques.
C'était le but dès le début, Thierry, d'avoir justement un duo d'enquêtrices qui incarne un peu le yin et le yang, qui soit totalement différentes.
Et c'était exactement le but. En fait, l'idée, c'était de leur donner des caractérisations de duo que l'on trouve peut-être un peu de manière traditionnelle chez des personnages masculins, mais il n'y a pas de raison. Donc là, ce sont des personnages qui sont féminins. Donc on a Mélissa Sainte-Rose et Gaëlle Crivelli, qui sont totalement affirmées. Ce sont des femmes qui s'assument dans tous les pans de leur vie, qui sont autonomes, qui savent très très bien où elles vont. Elles sont l'une et l'autre extrêmement bonne flic, mais elles sont radicalement différentes. Il y en a une qui est dans l'instinct, qui est dans la vitesse, qui est dans la rupture, c'est Gaëlle Crivelli, et l'autre qui est dans
la réflexion,
une forme d'empathie, de mesure, de réflexion. Elle a toujours un coup d'avance en fait, parce qu'elle voit plus loin et elle lit au travers de ce que disent les personnages. Et du coup, ces deux personnages formidablement incarné là. Sont à la fois un yin et un yang, et en même temps elles sont un tout et c'est un vrai duo.
Et c'est vrai, on va en parler de son rôle à Mélissa justement avec Sonia Roland qui va nous rejoindre dans quelques instants. Thierry, vraiment pour parler un peu du côté production aussi, nous on voit des images absolument sublimes. Quelles sont les particularités et aussi les choses un peu plus négatives qu'on peut avoir quand on tourne sous les tropiques?
Alors, en termes de production, c'est un tournage un peu différent de ce qu'on peut connaître, je dirais, en métropole, dans ce sens où il n'y a pas d'aller-retour possible. Lorsqu'on part pour le tournage, notamment pour nos deux comédiennes, elles partent pour 4 mois de tournage, loin de leur famille, de leurs amis, et totalement focalisées sur un rythme de tournage qui est forcément très très intense. Donc c'est un peu particulier. Il n'y a pas la possibilité de rentrer le week-end. Deuxièmement, il y a aussi des facteurs qu'on mesure pas parce que c'est beau le soleil, mais il fait chaud aussi.
Oui.
Et donc c'est un tournage qui se fait pendant donc 4 mois de tournage dans une chaleur qui peut parfois monter très très haut. Et ça, c'est fatigant pour les organismes. Donc il faut savoir un petit peu, surtout lorsqu'on n'y est pas habitué. Hein. Alors on s'y habitue petit à petit, mais quand même, il faut un petit temps d'adaptation. Et puis même, il y a des journées qui sont très très chaudes, très très lourdes. Donc il y a la chaleur, c'est très important et il faut savoir la gérer. Puis il y a le temps changeant effectivement, c'est-à-dire que c'est fréquent d'avoir des grosses averses qui tombent, des averses tropicales, des ondées, et qui repartent. Donc pour nous, en termes de tournage, c'est l'anti-Los Angeles, parce que Los Angeles, on sait que le matin il fera beau, le midi il fera beau, le lendemain il fera beau, et rien ne changera dans la lumière. Là, c'est pas le cas. La lumière peut radicalement changer en une heure de temps. Donc il peut arriver qu'une prise commence en soleil et puis finisse avec un peu de pluie. On l'assume totalement.
Et puis surtout, en plus, c'est qu'à chaque épisode, on découvre des sites sublimes de la Martinique. On va s'envoler dans cette saison 2 vers Sainte-Luce, Cap-Chevalier, Font-Banane et plein d'autres endroits encore. Comme ça, c'est aussi ça, la volonté hein, de cette série, c'est de montrer des sites un peu différents à chaque fois.
Mais bien sûr, l'idée, c'est pas, encore une fois, d'en faire un guide touristique pour la Martinique. C'est pas l'objet. En revanche, la série a pour ambition de proposer un voyage aux téléspectateurs. On est un peu tous chez nous, en semi-confinement ou en confinement. La période n'est pas toujours facile. L'hiver est là, est présent et on commence à en avoir marre. Donc l'idée, c'est de proposer un voyage. Et donc d'aller découvrir, au travers de chaque épisode, un petit bout d'île, un petit bout de paysage, un petit bout de coutume, un petit bout de manière de vivre un peu différente. Ça fait rêver. Je pense qu'on a tous aussi à y gagner, un peu à regarder, à mieux se connaître, parce que comme je le disais, c'est une France qui est un peu lointaine, mais qui est extrêmement enrichissante. Donc on a intérêt à le découvrir. Et comme vous l'avez dit, c'est magnifique. Et les gens là-bas sont formidables. Donc c'est vraiment un pays d'accueil. Donc à chaque fois qu'on peut en découvrir un petit coin, on essaye et puis on fait en sorte de ne pas trahir l'île. Voilà. On sait qu'on fait de la fiction. On sait que voilà ce que l'on raconte est d'une certaine manière voilà le fruit de l'imaginaire. C'est pas un documentaire, c'est pas un magazine, mais on essaye en même temps d'être sincère et de pas trahir l'île. Voilà.
Eh bien, en tout cas, c'est réussi. Et puis, en même temps, eh bien, ça nous fait voyager, ça nous fait du bien en ce moment. C'est vraiment la série qui fait du bien. Je pense qu'on peut terminer là-dessus, Thierry. On va découvrir cette saison 2. Ça sera donc vendredi sur France 2, juste après Un si grand soleil. On ne rate pas, évidemment, cette saison 2 de Tropique criminel avec notamment Alexandre Brasseur qui sera en guest dans ces deux premiers épisodes. À ne pas manquer, plus plein d'autres, bien évidemment, qui viendront rejoindre toute la saison. On en parlera d'ailleurs pendant plusieurs semaines de Tropique criminel. Je vous disait. Et puis on va se quitter avec la bande-annonce, Thierry.
Merci beaucoup à vous.
Merci beaucoup. Et puis Sionna Roland nous rejoint juste après. Merci, à très vite, Thierry.
Au revoir.
Commandant Sainte-Rose, capitaine Crivelli, on peut vous parler ?
Inédit, Tropique criminel.
Bon, qu'est-ce qu'on a ?
Un décor idyllique.
Allez, viens, il paraît qu'on peut voir des tortues.
Non mais Franck, on se remettra jamais ensemble.
Ah la vache, le vent !
Un duo électrique.
Non, j'étais pas vraiment tapé sans max.
Vous n'êtes pas sérieuse, là ?
Ouf. Allez, on l'embarque.
Excusez-moi, je suis très inquiet, là.
Et regarde qui voilà.
Qu'est-ce que c'est que ce truc ?
Oh, c'est pas possible.
Mais comment vous faites pour garder votre calme dans une situation pareille ?
Je suis une femme.
Avec Sonia Roland et Béatrice Delaboulay, Tropique criminel, nouvelle saison, vendredi prochain à 21h05 sur France 2. Ce programme est disponible en audio-description.
Et voilà, chose promise, chose due. Allez, de retour avec nous aussi Sonia Roland qui nous rejoint. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Le rôle de Mélissa Sainte-Rose, quel bonheur de t'avoir Sonia avec nous pour ce retour de Tropique criminel vendredi sur France 2. Un joli
merci
rôle.
Merci pour cette fidélité.
Et puis franchement, tu t'éclates.
Un joli rôle, ouais. Ah ouais, je me suis éclatée comme une folle. On n'avait pas forcément les meilleures conditions météorologiques parce qu'on a dû reporter le tournage qui devait se faire en avril. Faute de confinement, on a reporté, mais c'est quand même une grande chance d'avoir pu tourner malgré la saison tropicale.
Et oui, c'était un peu la saison des pluies là pour le coup.
Ah ouais, c'est la saison des pluies, c'est un peu tirer les cheveux. Mais en même temps, on a réussi à tout faire dans les temps. Et en fait, vous allez découvrir une saison qui pulse.
Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1, comment tu la définirais, toi, Mélissa Sainte-Rose, justement ?
Ben, c'est la saison des rencontres. Hein. C'est la saison de la rencontre aussi avec un environnement pour Mélissa, qui est créole, mais parisienne, qui n'a jamais vraiment connu son île, qui débarque dans une équipe difficile aussi parce que elle fait face aux méthodes peu orthodoxes de Gaëlle Crivelli jouée par la merveilleuse Béatrice de la Boulay. Et du coup, il faut qu'elle fasse face à plein de choses dans sa vie privée, ses enfants qui supportent pas l'idée de vivre là parce qu'ils connaissent rien de la Martinique. Et puis, ce qui la sauve finalement, c'est qu'elle a toujours le nez creux, elle connaît parfaitement son métier. Et du coup, très vite, ils vont se rendre compte que Mesa est indispensable à cette équipe. Donc, elle reprend confiance en elle, quoi.
Et mais Mélissa et Gaëlle, ouais, c'est vraiment le yin et le yang, les deux. Moi, j'adore vraiment ce duo qui est complètement différent et qui essaye tant bien que mal, voilà, d'unir leurs forces pour résoudre des enquêtes. C'est vraiment chouette.
Exactement,
d'avoir...
Exactement, mais en fait, elles ont une admiration l'une pour l'autre. Mélissa qui est constamment obligée de ramener l'autorité, l'ordre et la morale. Se délecte quand même parfois des méthodes de Crivelli parce que ça permet d'attirer l'attention sur autre chose et elle découvre d'autres choses pendant que l'attention est ailleurs. Donc, elles sont assez complémentaires et on découvre une Mélissa complètement différente en saison 2, qui a forte de l'absence de Crivelli pendant 6 mois, a pu vraiment prendre possession de son environnement de travail et puis on la sent vachement plus à l'aise et libérée de ses chaînes d'autorité parfois surjouées, quoi.
Alors on va parler un peu de la famille dans un instant aussi de Mélissa. Et juste avant, on le disait avec Thierry, chaque épisode est un peu centré aussi sur un endroit de la Martinique. Et d'ailleurs, chaque titre d'épisode est centré sur un endroit de la Martinique. Alors, on va commencer par Sainte-Luce. Ouais. Il y aura plein d'autres endroits qu'on va visiter. Est-ce que toi, t'es toujours aussi émerveillé de découvrir des paysages différents aussi là-bas?
Ben bien sûr. En fait, la Martinique a des paysages très riches, que ça soit du nord au sud, côté Caraïbes, océan. On va dans une région selon ce qu'elle évoque émotionnellement aussi. Non, en fait, ce qui est génial, c'est que les acteurs comme Arié et Malé, qui sont très récurrents dans la série, ont découvert aussi des spots de kitesurf dans le nord, là où il y a l'océan. Béa, elle aime un peu tout. Elle est très 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 curieuse. Moi aussi, hein, je suis curieuse, mais elle adore voyager, c'est une vraie touriste sur l'île. Moi, j'avais besoin de moments de calme, de repos et de me retrouver aussi les week-ends. Donc, j'allais souvent dans des spots un peu plus calmes, côté Caraïbes, quoi. Voilà, ouais. Des grandes baies, l'eau bleue turquoise, le sable blanc, ça me passe très bien.
Les anses d'Arlée, les salines, l'Ansalane, un peu partout comme ça. Ben oui, il y a des beaux, beaux endroits vraiment à découvrir.
Il y a de très, très beaux endroits, ouais.
Et donc Arié, justement, est de retour aussi.
Alors Arié est un nouveau venu dans la série. En fait, il joue le père de mes enfants qui débarque de manière complètement imprévue dans la vie de Mélissa. Alors elle, il faut que, comme toujours d'ailleurs dans sa vie privée, elle improvise, hein, elle fait comme elle peut selon les événements. Mais très vite, Arié, son personnage va devenir de plus en plus présent en fait dans la vie de Mélissa et qui va très naturellement tisser des liens avec Crivelli, mais vous découvrirez dans la série.
Oui. Regardez bien jusqu'à la fin du premier épisode. Vous allez voir, il y a des surprises justement avec Arié. Alors Sonia, il y a aussi beaucoup de beaux projets qui t'attendent pour cette année 2021. Où en est ton film? On en avait parlé il y a un petit moment, c'était peut-être pour le cinéma. Est-ce que c'est pour la télévision? Il y a des choses qui sont en train de se nouer là, je crois.
Eh bien, justement, on est en train de faire l'adaptation de mon scénario qui parlait d'une candidate à Miss France tirée de faits réels puisque c'est inspiré de mon histoire. Mais c'est vraiment une fiction, hein, librement adaptée, on va dire. Et du coup, je l'adapte à la télévision et aux plateformes parce que je pense que c'est un objet qui doit pouvoir être accessible à tous. En fait, voilà.
Être vu par le plus grand nombre.
Parce que faut rendre à César ce qui appartient à César. Moi, j'ai été élue à la télévision devant des millions de téléspectateurs et j'aimerais vraiment m'offrir et offrir au public ce cadeau d'une élection particulière, enfin qui a marqué un changement aussi de mentalité et du coup qui fait écho à notre société actuelle en fait et à certaines problématiques de notre société actuelle.
Bon, si t'as besoin de figurants, tu sais qu'on a un beau vivier, nous.
Ouais, avec grand plaisir.
Tu m'appelles et on a tout ce qu'il faut.
Quand ça sera la saison des castings, tout le monde peut y répondre. Hein. Nous, on sera très ouverts.
Bon, il y a des belles choses en tout cas qui se tissent. On a hâte de voir ça. Puis on en reparlera, bien évidemment. On peut évoquer aussi la dernière élection de Miss France qui s'est déroulée dans des conditions particulières où tu étais sans public, au Puy du Fou. C'était fou.
Dans des conditions, disons, intimistes. C'était très particulier, mais ça a permis quand même aux candidates, parce que nous, on était très encourageantes. Hein. Même pour un jury, on était déjà... On connaît l'angoisse d'être candidate, on connaît l'angoisse de se retrouver sur un plateau face à un jury et face malgré tout à des téléspectateurs, parce que là, ça a été une des élections les plus regardées, parce que le contexte, en fait,
mais oui,
l'a aussi permis, malgré tout. Mais moi, j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein. Hein. Vous savez, d'accord, il n'y avait pas de public dans la salle, mais il y avait beaucoup de monde qui regardait la télévision.
Exactement.
Et je suis contente quand même, parce que pour un centenaire, c'était le but aussi, c'est que ça soit vu par le plus grand nombre. Et je suis très heureuse d'avoir fait partie de ce jury et d'avoir, à ma manière, contribué à cette élection. Elle est très très belle, elle va rester, elle va faire date hein, de toute façon.
Eh bien, en tout cas, j'ai le petit message pour toi hein, de Leïla, notre Miss Aquitaine, Léa, notre Miss Limousin et Justine, notre Miss Poitou-Charentes, qui t'embrassent très très fort. Voilà, sont très heureuses de pouvoir t'entendre.
Merci infiniment, ma merci. En tout cas, quelle promotion cette année. Hein. C'est vraiment, ils nous ont vraiment donné du fil à retordre hein, au jury.
J'imagine. En tout cas, on vous a senti très derrière les candidates et voilà, ça, on sentait la ferveur nous derrière notre écran et je pense que c'est ça qui était le principal. Voilà, on nous a offert un beau spectacle. Merci Sonia, en tout cas d'avoir été avec nous.
Merci à vous, à très bientôt et puis suivez la série, vous allez voir, vous allez vous éclater, vous allez avoir du soleil dans votre salon.
Ça va faire
et
un
en
bien.
Même temps, plein d'intrigues comme on aime.
Exactement, des intrigues policières, de l'amour, des enquêtes, il va y avoir plein de choses, voilà vraiment à découvrir. Tropique criminel, puis des guests aussi, Alexandre Brasseur dans le premier épisode que vous allez découvrir vendredi. Voilà, et plein d'autres guests toute la saison. Merci Sonia et à très vite.
Eh ben merci à bientôt.
Et tout de suite la bande annonce, c'est parti.
Un décor idyllique.
Ça va ?
Vous m'avez tiré dessus, mais vous êtes folle !
Bah, c'était pour faire diversion, j'avais pas le choix. Hein.
Un duo électrique. Tropique criminel, nouvelle saison. Vendredi soir à 21h05 sur France 2.
Allez, pour la dernière partie de Chute, on écoute la télé. On accueille Maïtena Birabin dans un instant pour son émission Déconfinée. A tout de suite.
Bouge pas. Chute, on écoute la télé revient dans un instant. A tout de suite.
T'étais là déjà pour mes premiers pas, t'étais là déjà dans la famille avant moi. T'as vu mes premières fois, tu m'as vu grandir, mes premiers chagrins, mes premiers mots pour le dire.
Je savais pas que tout serait si différent, mais tant que tu es là, ce sera comme avant. De la tête aux pieds, dans les cœurs douces et violentes, et grâce à toi, tous ces gens qui chantent. Oh, et moi j'étais rien, c'est vrai, qu'un gamin solitaire, et toi tu es passé. Tu seras la dernière, et moi j'étais rien, c'est vrai, qu'un gamin solitaire, et toi tu es passé. Tu seras la dernière, la 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 la. Tu seras la dernière, la 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 la.
Tu étais, tu es, tu resteras ma belle, promis rien que toi, ma douce qui est éternelle. Les années, les amis, les amours passent, et toi tu restes et me fais rester à ma place.
Tu seras mon île quand je serai loin d'ici, tu seras mes ailes toujours, toujours dans mes nuits, dans les joies, les panneaux de cœur, dans les tourmentes, et grâce à toi, tous ces gens qui chantent.
Oh, et moi j'étais rien, c'est vrai, qu'un gamin solitaire, et toi tu es passé. Tu seras la dernière, et moi j'étais rien, c'est vrai, qu'un gamin solitaire, et toi tu es passé. Tu seras la dernière. Solitaire, et toi tu es passé.
Tu seras la dernière, et moi j'étais rien, c'est vrai, qu'un gamin solitaire, et toi tu es passé. Tu seras la dernière, tu seras la dernière, tu seras la dernière.
On écoute la télé, le talk show radio. L'invité d'honneur de la semaine.
Allez, coup de cœur télé consacré à Déconfiné qui fait son grand retour sur LCP. Ça sera vendredi à 20h30 avec Maïté Nabirabin toujours aux commandes pour cette saison 2 qui va nous emmener pour ce numéro de la Maison Centrale de Poissy au Centre Pompidou. Bonjour Maïtena, merci d'être avec nous.
Bonjour à vous tous, c'est une joie toujours d'être dans notre belle Aquitaine.
Exactement, la nouvelle Aquitaine, je sais que c'est une région que vous connaissez plutôt bien aussi.
C'est la mienne.
Ben oui, j'imagine bien. Déconfiné, le retour, ça y est, on va découvrir un nouveau numéro de cette saison 2, oui. Vendredi sur LCP. Mais pour ceux qui connaissent pas Déconfiné, quel est en fait le but de l'émission? Comment on pourrait la définir?
Ben on n'y arrive pas, même moi qui l'a coproduit avec LCP, j'y arrive pas. C'est une espèce d'ovni invraisemblable qui a commencé pendant le premier confinement, à un moment où, au tout début du premier confinement, si on cherche tous dans notre mémoire, on se souviendra que on était tous très apeurés, qu'il y avait quand même beaucoup d'inquiétudes. On savait pas comment ce virus se transmettait, s'il était mortel ou quoi, qu'est-ce. Et dans les prisons, il y avait une grande agitation du côté des détenus qui avaient peur, en fait.
Ouais, une
et,
grande peur, oui.
On a, voilà. Et moi, j'étais chez moi et... J'avais du mal à rester confinée. J'avais beaucoup de mal avec le confinement, moi. Et on a profité de cette inquiétude des prisonniers en se disant, mais tiens, il faut faire une émission pour eux, il faut faire une émission pour les gens qui sont enfermés. On commence à comprendre ce que c'est que nous, on est confinés, mais on nous enlève de la liberté. On peut faire peut-être un pas vers ceux qui sont dans les lieux de privation de liberté et s'intéresser à cette idée de la liberté. Voilà. Donc, c'est parti comme ça. Et on s'est dit que ce qui pouvait nous aider, on tournait dans Paris qui était vide, je remontais les Champs-Élysées à pied, il y avait rien, on était seuls. Enfin, c'était complètement fou, le Paris était devenu un décor, c'était complètement incroyable. On a gardé cette idée de décor exceptionnel, et donc maintenant on va dans des musées, parce qu'on peut plus tourner dans Paris, il y a des bagnoles partout, donc il y a du bruit tout le temps. Et on s'adresse à ceux qui sont enfermés, en parlant des prisons. Mais moi, je pense quand même quand je parle à un prisonnier, moi je pense à ma mère qui a été hémiplégique et qui vivait dans un EHPAD. Je pense à ceux qui sont enfermés dans leur tête, à ceux qui sont enfermés dans leur corps, à ceux qui voilà. Je pense à tous ceux qui sont enfermés et on explore comme ça cette notion de la liberté et de la culture.
Et oui, voilà, la
c'est
culture.
Un peu complexe, hein.
Ouais, mais la culture est vraiment vraiment au centre aussi hein, de cette émission.
Mais je crois, franchement, on sait tous qu'un livre, ça nous augmente et qu'on peut s'évader en lisant un bouquin. D'accord, on le sait.
Oui.
Mais est-ce qu'on l'a pas vraiment expérimenté pendant le confinement? Est-ce que les moments où on a réussi à respirer, c'était pas les moments où on voyait quelque chose de beau? Voilà.
Maïtena, on vous retrouve aussi avec l'humour qui vous caractérise aussi. Il y a beaucoup de notes d'humour dans cette émission. Vous avez dû quand même vous amuser en l'enregistrant. Mais moi, une question que je me pose maintenant, est-ce que vous avez réussi à élucider le mystère du miel Pops?
Oui.
Ah.
Absolument, mon cher. Vous allez découvrir dans cette émission, on explique, parce que maintenant on thématise l'émission, chaque numéro de Déconfiné a une thématique. Le premier, c'était l'entrée, quand on arrive en prison, qu'est-ce qui se passe? Quel est le chemin jusqu'à ce qu'on arrive dans sa cellule définitivement? Le deuxième numéro que vous allez voir donc vendredi est consacré à la nourriture. Qu'est-ce qu'on mange en prison? Et on a été dans une centrale. Parce que la centrale, ce sont les endroits où les gens arrivent une fois qu'ils sont condamnés, contrairement aux maisons d'arrêt. On est arrêté, on va en maison d'arrêt, on est jugé, on va en centrale. En tout cas, si on prend plus de 15 20, ou 20 ans d'emprisonnement, on va en centrale. Et donc, quand on arrive là-bas, on se disait, c'était quand même très intéressant de se demander ce que les gens qui sont condamnés à perpétuité ou à très longue peine vont manger, quoi. Et donc, on fait cette thématique sur la nourriture. Et donc, on explique ce que c'est que cantiner, qui est ce truc que font les personnes détenues. Ils commandent en payant d'autres produits que ce qui est donné par l'administration pénitentiaire. Et figurez-vous qu'il y a le détenu qui nous explique la cantine, nous parle du prix des miel Pops, qui était à 7 euros et quelques pour 600 grammes de miel Pops. Un prix de malade. Donc, nous avons fait notre travail et nous avons appelé le ministère de la Justice. Et vous connaîtrez la résolution de cette problématique positive, je vous le dis tout de suite, comme quoi la télé peut servir à quelque chose, dans le numéro spécial de Déconfiné consacré à la cuisine.
Voilà. Et là, au moins, on va tout savoir. Moi, ce qui m'a intéressé aussi et interpellé, c'est ces portraits de ce jeune, par exemple, qui a passé son CAP boulanger, et puis qui est aujourd'hui bien aux commandes, qui fait le pain, qui fait les viennoiseries. Ça les occupe, et puis à la fois, on a l'impression que ça les fait revivre, en quelque sorte.
moi, j'ai commencé cette émission, je n'étais pas du tout une professionnelle de la détention. La liberté est une question qui m'a été posée pendant le confinement, comme à nous tous, la restriction de la liberté. Je découvre la pénitentiaire, le monde des personnes détenues et des personnels pénitentiaires, en même temps que je fais cette émission. Nous, les Français, on s'en fout de nos prisons. Et on s'en fout de ceux qui sont dedans. Ça nous intéresse pas. Parce qu'on considère souvent que les gens qui y sont, ils l'ont bien cherché, c'est leur problème. C'est à tort. Et c'est une manière de penser qui est hérétique, en fait. Parce qu'on juge les sociétés à la manière dont ils traitent les membres les plus faibles, les enfants, les personnes âgées et les prisonniers. Les prisonniers, ils vont en prison. C'est ce qu'on appelle le sens de la peine pour payer et s'améliorer. S'ils ne font que payer et que on n'apporte rien pour qu'ils s'améliorent, c'est une question de société qui nous est posée à tous. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? On enferme des gens et puis
et ça
on attend
rien.
Qu'ils empirent, que ça ne serve à rien, ils ne serviront plus jamais à rien. Bon, alors autant, c'est de la peine de mort déguisée, vous voyez ce que je veux dire? C'est,
oui.
Si on est condamné pour toujours, une fois qu'on a purgé sa peine, cette peine, elle est purgée et on ne doit pas être résumé à ça. Chacun de nous, on a fait des choses qui sont... je ne suis pas en train de nous comparer à quelqu'un qui aurait tué quelqu'un, c'est pas ce que je suis en train de faire. Je dis juste que chacun de nous, il y a des choses qu'on a faites dont on n'est pas très fier, on ne peut pas nous résumer à ça. Donc quelqu'un qui a fait un homicide, par exemple, il est condamné, il est enfermé, il paye sa dette à la société, et après, il faut qu'il puisse sortir et qu'il puisse faire quelque chose de sa vie. Si on rentre en prison à 25 ans, qu'on prend 25 ans de prison, qu'on en sort à 50, qu'est-ce qu'on fait? On est supposé, qu'est-ce que nous demande la société? Mourir à 50 ans et un jour? Il faut disparaître? C'est pas possible. Ça n'a pas de sens. D'autant que je peux vous le dire, franchement, c'est moi qui vous le dis, mais toute l'équipe vous le dirait. C'est fou le nombre de gens qu'on rencontre en prison qui nous ressemblent. C'est nous, c'est personne d'autre. C'est nous, les détenus. C'est des gens comme nous. Voilà. Il y a des crapules, il y a des salauds. Je suis pas en train de, je dis pas, voilà, c'est pas ça. Mais il y a aussi des gens comme vous et moi.
Oui, qui ont pu déraper un jour et voilà.
Oui, oui, absolument.
Alors, il y a aussi la partie au centre Pompidou. On a appris dernièrement, d'ailleurs, que le centre Pompidou allait fermer pendant 4 ans, hein, de 2023 à 2027. Ouais. Et là, vous êtes inséré au centre Georges Pompidou avec personne dedans. Mais ça a dû être magique de pouvoir découvrir dans ces conditions-là.
Ouais, c'est magique. On avait fait la première au Louvre et c'est vrai que c'est assez extraordinaire. On fera la prochaine à Versailles, vraisemblablement. Donc, vous déconfinez, vous baladera dans les couloirs et les salons de Versailles sans personne. Et là, on est à Pompidou et c'est assez dingue, hein. Je vous le dis, c'est assez dingo, hein. Après, un musée est rarement vide, en vrai, parce que il y a toujours des gens qui viennent, nettoyer, réparer, voilà. Donc, il y a, mais on est complètement privilégiés. C'est assez extraordinaire de se promener comme ça. Sans personne, en toute liberté. Oui, c'est honnêtement, c'est une chance, évidemment, oui. Pour vivre, c'est extraordinaire.
On va découvrir ce nouveau numéro de Déconfiné de la Maison Centrale de Poissy au Centre Pompidou. Ça sera vendredi à 20h30. Ça sera rediffusé ensuite en début de nuit.
Et puis
sur lcp.fr aussi. Voilà, ça sera sur lcp.fr, bien sûr, aussi.
Et puis, j'en profite, je sais pas si vous le savez, mais il y a LCP a une chaîne YouTube sur laquelle il y a tous les anciens numéros de Déconfiné que vous pouvez voir, saison 1, la formule a changé, mais voilà, c'est l'idée de la liberté vous intéresse. Il y a des gens qui nous en parlent extraordinairement bien dans la première saison et bien sûr dans la deuxième. Merci en tout cas d'être au rendez-vous, c'est un bonheur à faire cette émission, elle est lunaire, mais elle est géniale à faire.
Eh ben, elle est sympathique en tout cas, regardez, rendez-vous vendredi 20h30.
Merci.
Et puis on va tout de suite écouter le sommaire de l'émission que je vous propose tout de suite. Merci Maïtena, à très bientôt.
Merci à vous, à dix-sept.
Une prison pour ce numéro de Déconfiné. Poissy, c'est là que nous sommes. C'est une des centrales françaises. Une centrale, c'est un endroit dans lequel on vient au moins pour 15 ans et parfois pour toujours, puisqu'il y a des condamnés ici à perpétuité qui vont donc rester jusqu'à la fin de leur vie dans cette prison. Alors quand on est là pour toujours ou pour très longtemps, on se pose la question de qu'est-ce qu'on va manger. Très bien, la nourriture en prison, c'est le sujet de Déconfiné. Et puis un musée, toujours un musée. Toujours, toujours un musée. Nous allons au centre Pompidou aujourd'hui. Et évidemment, puisque c'est déconfiné, c'est exceptionnel, dans ce musée, il n'y aura que toi et moi.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. On reparlera bien sûr de la série Tropique Criminel avec Béatrice de Haboulet et Ariel Mallet qui seront nos invités exceptionnels. On reparlera aussi de la série Je te promets. On essaiera de joindre le groupe Boulevard Désert qui sortira son nouvel album vendredi. Plus bien sûr, bien d'autres surprises qui vous attendent encore dans Chute, on écoute la télé. Allez, n'oubliez pas que Chut, on écoute la télé, c'est également toute la semaine avec La Quotidienne à 11h40 sur Bergerac 95. Retrouvez également cette émission en podcast sur notre site internet onécoutelatélé.com. Et pour rester connecté avec nous, rien de plus simple. Rendez-vous sur notre page Facebook et Instagram Chut, on écoute la télé. Et vous pouvez eh bien télécharger dès maintenant notre application Chut, on écoute la télé pour iPhone et Android. Je vous retrouve également lundi prochain à 19h pour la Grande Hebdo. D'ici là, je vous souhaite de passer une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Bergerac 95.
Chut, on écoute la télé avec votre magasin Optical Center de Bergerac Cresse. Optical Center, c'est toute une équipe de professionnels à votre écoute. Des offres exceptionnelles, les plus grandes marques, le choix et la qualité. Optical Center, votre spécialiste en optique et en audition, vous accueille zone commerciale Porte de la Dordogne à Cresse.
Chut, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Pineuil, votre spécialiste culture, centre commercial Grand Pineuil.